Vous savez, dans les Écritures, il y a un personnage qui m'a toujours fasciné, avec lequel je me suis toujours identifié. Je pense qu'il y avait des éléments peut-être de sa personnalité qui m'attiraient chez lui, mais je pense aussi que tous les gars qui aspirent un jour à aller dans l'œuvre s'identifient avec lui, c'est Timothée. Et Timothée était un gars pas mal ordinaire. Timothée, c'était un homme ordinaire qui venait d'une famille de croyants. Il nous est dit dans la deuxième épître à Timothée, Paul mentionne, il dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi en parlant à Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Et donc, Timothée venait d'une famille où ses femmes, sa mère, sa grand-mère, ses femmes avaient été des modèles de foi. Ces dames avaient été des modèles pour lui. Et un jour, Paul arrive dans la ville où habite Timothée, puis il y a ce gars-là qui était ordinaire, mais qui en même temps avait rencontré Jésus-Christ. Et à cause de cela, Jésus-Christ avait commencé à faire des choses extraordinaires en lui. Et là, Paul a remarqué ce jeune homme à cause de la réputation qu'il avait de sa consécration à Christ. Et c'est vraiment pour ça qu'il a remarqué, lorsqu'on continue à lire les lettres de Timothée, on se rend compte que c'était un homme ordinaire qui avait simplement rencontré Jésus-Christ. Et Dieu avait produit une révolution dans sa vie. Ce matin, je vous introduis à un gars ordinaire. François Turcotte, c'est un gars tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est vrai. Un gars qui vient d'une famille chrétienne. Vous avez connu sa mère, Colette, que le Seigneur est venu chercher l'année dernière. Un gars qui a son histoire. Moi, je la connais intimement, assez, son histoire, pour vous dire qu'il a eu une vie pas toujours facile et avec des défis devant lui. Et puis un jeune homme qui a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est entré dans sa vie et Jésus-Christ a commencé à faire de lui un homme extraordinaire. A commencé à faire dans sa vie des choses extraordinaires. Simplement, il est allé faire Gibec. Il a donné des étés au Seigneur en allant faire Gibec. Il a commencé à fréquenter les leaders des églises, à se coller sur ces hommes-là. Et progressivement, Dieu, Jésus-Christ est devenu la passion de sa vie. Et François représente bien Timothée, très, très bien. Un gars qui a donné sa vie à Christ et qui a été progressivement transformé à travers les années. Tout simplement. Des hommes ont remarqué en lui une passion pour Christ et se sont investis en lui. Et Dieu a fait de lui un homme de Dieu à travers les années. Dieu a fait de lui un mari, je pense, pas mal bien, hein? Qui travaille toujours sur lui-même. Il a fait de lui un ami fidèle. Je vous parle de François régulièrement, de François et Stéphane. Quand vous m'entendez parler des 3M ou de mes amis avec qui je vais faire des retraites spirituelles, c'est François Turcotte et Stéphane Gagné qui est à Saint-Georges. Et Dieu a fait de François un ami fidèle, un homme qui croit dans l'amitié, qui croit dans l'idée de prendre soin les uns des autres jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et ainsi, François, Stéphane et moi, on a fait une alliance ensemble. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, il y a quelques années, où on s'est engagé à prendre soin les uns des autres, quelles que soient les circonstances. Et je sais que je peux appeler François n'importe quand, je serai n'importe où sur la planète. François va venir à mon secours si je suis en détresse, si j'ai besoin d'épancher mon cœur, si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin de prier, si j'ai des troubles dans ma vie, il va se déplacer, il va venir avec moi. Un ami fidèle aussi, parce que dans ces retraites-là, on fait ça deux fois par année, on va pas juste là pour se dire « t'es pas mal bon, mon grand, Dieu est en train de faire des belles choses dans ta vie. » On prend ces temps ensemble pour s'examiner les uns les autres. On prend ces temps ensemble pour prier les uns pour les autres, pour se reprendre les uns les autres. Et j'ai partagé à l'Assemblée, il y a quelques temps, que il y a 2 ans à peu près, Dieu a commencé une œuvre profonde dans mon cœur. Je pense vraiment que c'est un réveil spirituel que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et des fois, ces choses-là se préparent par des brisements, vous savez. Bien, Dieu s'est servi de Stéphane et François comme une de ces étapes de brisement. On dirait que lorsqu'on fait nos retraites, des fois, il y a une retraite qui est... C'est comme celle d'un des gars. C'est sa retraite à lui. Dieu avait un rendez-vous avec lui, puis il s'était servi des deux autres pour aller l'exhorter. Bien, voilà, à peu près 2 ans... Je me souviens, on était dans un chalet dans les cantons de l'Est et puis ça a été ma retraite. Les gars ont décidé que Dieu voulait sanctifier ma vie. Et je pense que c'était le Saint-Esprit qui avait mis ça sur leur cœur. Et c'était un des brisements que Dieu voulait opérer. Ces gars-là m'ont dit, Yannick, t'es orgueilleux, t'es condescendant. Lorsque tu nous parles, tu as toujours les réponses à tout. On ne peut pas terminer notre argument. Tu nous mets en boîte. Il y a quelques personnes ici qui peuvent me reconnaître. Ceux qui travaillent de près avec moi savent que c'est des choses que Dieu sanctifie dans ma vie. Mais Dieu s'est servi de la fidélité de ces hommes-là qui ont eu le courage de me confronter avec ces choses-là. Donc, un homme de Dieu, un ami fidèle, un pasteur fidèle. François était pasteur à l'église de Fermont, premièrement. Il est venu ensuite prendre soin de l'église de Saint-Hyacinthe après avoir laissé, s'être assuré qu'il laissait un pasteur en place, en formation, à Fermont, Simon Bélanger. Ensuite, il est venu à Saint-Hyacinthe et il est en train lui-même de reproduire ce modèle que Paul a laissé à Timothée dans 2 Timothée 2:2. Trouve des hommes fidèles, reproduis-toi en eux afin qu'ils puissent confier fidèlement les enseignements. Alors, François est en transition maintenant. Et il a été appelé par Sam Beck. Il est en transition parce qu'il est encore à Saint-Hyacinthe. Et puis, en même temps, Donald Rodier est en formation pour prendre... Est-ce qu'il a été accepté là, comme pasteur senior? Oui. Il y a encore une transition. Il est encore en train d'apprendre ce rôle-là, tout ça. Alors, François est en retrait. Il est maintenant à temps partiel à Saint-Hyacinthe. Il a été appelé par Sam Beck. Et je pense que c'est un appel de Dieu sur sa vie. Parce qu'une des plus grandes passions de François, c'est justement de se reproduire en d'autres hommes qui vont transmettre le message. Et en allant travailler à Sambec comme directeur des programmes, il peut s'appliquer à travailler sur ces programmes-là. C'est son sujet de maîtrise aussi. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre le dépôt et former des ouvriers, des hommes de Dieu? Alors pour moi, c'est un grand privilège de l'avoir ici. Premièrement, parce qu'il va nous parler de la formation dans l'église locale. Deuxièmement, parce qu'il va nous parler de Sambec, l'institution qui m'a formé, moi, comme ouvrier en grande partie avec l'Église locale. Et troisièmement, parce que c'est un ami vraiment cher pour moi. Un modèle. Pour moi, c'est vraiment un modèle, quelqu'un de qui on peut s'inspirer pour avoir une passion pour Dieu, un modèle de fidélité, un modèle d'humilité aussi. François est un homme enseignable. Alors, je te laisse la parole, François, si tu veux venir.
Eh bien, que dire après cela? Ouais, c'est ça, merci, c'est bon. Je peux dire que les Américains ont John MacArthur, nous autres, on a François. Oui, c'est ça. C'est pas de pression du tout. Surtout que le prof de Milétique est dans la salle, je crois, donc ça, c'est encore pire. Monsieur Élisée Beau, combien l'ont connu ici? Il y en a qui ont connu Monsieur Beau, fondateur de l'église de Longueuil. Eh bien... A mis sa vie par écrit il y a quelques années. Puis j'ai pensé en donner 3 en cadeau ce matin à quelqu'un qui est intéressé de le lire. Alors, comment on fonctionne? Simplement, lever la main, ceux qui aimeraient le lire, et puis je vais essayer d'en donner 3 au hasard, un par section, Yannick. Alors, bénis 3 personnes ce matin. Ça fait plaisir de... C'est important de connaître la vie de celui qui a fondé cette église. Et voilà. Malgré la belle description que Yannick a fait de moi, quand j'étais habitant à Fermont, j'avais été à la banque dans une ville voisine et puis il y avait un endroit pour que les enfants puissent colorier pendant que tu attendais en ligne. Et puis moi, j'ai fait ma transaction et puis je suis parti. Et puis, en roulant vers ma maison, à un moment donné, j'ai fait « Oh! Ma fille! » Je suis revenu à toute vitesse à la banque. Ma fille était assise en train de dessiner. Elle ne s'est pas aperçue de rien. Extraordinaire, des fois, la naïveté de nos enfants. Alors, j'ai pris ma fille et puis on est revenu à la maison. Je lui ai dit juste quelques années plus tard. Là, elle a voulu m'étrangler. Mais je suis des fois lunatique. J'oublie des détails. J'oublie des détails. C'est des détails. C'est bon. J'ai déjà oublié un autre détail, ma femme, pour parler détails. J'ai souvent eu l'occasion de parler et je ne présentais pas mon épouse, Nathalie. Alors là, je le fais ce matin, mais je l'ai souvent oublié. Et dans l'auto, en m'en revenant, ping, j'avais un petit message d'oubli. Mais j'aimerais vous parler plutôt ce matin d'une autre épouse qui est bien souvent oubliée, surtout lorsqu'on parle de formation. Eh bien, c'est l'épouse de Jésus-Christ, l'Église elle-même. Et avant de parler d'elle et de son rôle, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que on a vu ce matin ta mort sur la croix nous a purifiés, nous a ressuscités, nous a donné une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais en attendant ton précieux retour, tu nous as demandé de devenir semblable à toi. Pas seulement pour nous, mais pour toi, pour ton honneur. Aide-nous à saisir personnellement ce matin ce que tu as pour nous. La lumière que tu veux éclairer parce que tu veux nous amener un pas plus loin. Dirige pour ça, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Pour essayer de saisir l'importance de l'Église, il y avait une petite photo ici. OK, elle est là, toujours. Je ne sais pas si ce serait Yannick au 16e siècle, s'il ressemblerait à ça, je ne sais pas, avec le petit bonnet. OK. Mais ici, peut-être certains l'ont reconnu, c'est Jean Calvin. Jean Calvin était un réformateur qui a changé la face du christianisme. On est encore imprégné des enseignements et de la réforme que Calvin a amené au christianisme. Mais il était pasteur d'une église, Jean Calvin, à Genève. Une petite ville, Genève, à cette époque-là. Mais Calvin a eu à cœur que l'église à Genève puisse servir de centre de formation pour le royaume. Et il avait à cœur la France, puisqu'il était français. Il ne pouvait pas y résider à cause de la persécution, mais il était aux frontières et il avait à cœur ce grand pays, la France. Alors, il a institué dans son église deux centres de formation. Le premier qui visait un niveau d'instruction pour que tous puissent apprendre la parole de Dieu à travers des enseignements à chaque jour de la parole. Mais il avait aussi un autre niveau où il voulait former ses leaders, ses hommes qui allaient prendre le ministère. Et les exigences, je les ai lues, on a à rougir. Les hommes devaient apprendre par cœur un catéchisme qui résumait la foi et le traduire en latin, sans aucune note, et apprendre le grec et l'hébreu, au point de pouvoir dialoguer et d'avoir une assurance ferme dans ces langues des Écritures et tant d'autres choses. Il s'est investi dans des hommes, des fois 200 en même temps, dans une toute petite église. Mais il voyait son cœur, sa passion, il avait à cœur d'aller servir. De l'église de Genève où était Calvin, on lit que 2150 assemblées ont été établies en France par des missionnaires envoyés de Genève. De ces églises-là, à travers le 17e siècle, s'est converti 3 millions de chrétiens. Et les statistiques ne sont pas exagérées, c'est dans les plus conservatrices. Et la plupart par ces hommes que Calvin avait formés. Il a changé la face complète de l'Évangile dans un pays entier à partir d'une seule église. Avec une équipe, bien sûr, de collègues autour de lui, Théodore de Bèze, etc. Mais il était convaincu que Dieu avait choisi son épouse, l'Église, comme un centre de formation pour gagner le monde pour Christ. Peut-être même que de ces convertis-là, de génération en génération, certains ont traversé et sont venus en Amérique. Et peut-être même que l'Évangile est lié à nous à travers même Calvin, on ne sait jamais. Mais tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, vous l'aurez à l'écran, versets 11 à 16, ou dans votre Bible, Éphésiens 4, 11 à 16. Et avant de le lire, j'aimerais vous donner un peu le contexte. Paul prend la peine pendant presque deux chapitres entiers de décrire le mystère de Dieu, l'Église. Et il prie pour cette assemblée que l'Esprit-Saint puisse les saisir à travers l'amour, afin qu'ils puissent saisir toute la sagesse et la profondeur du plan de Dieu à travers l'Église. Entre autres, il pourrait faire cette prière pour cette assemblée locale à Longueuil aussi. Et après avoir parlé d'unité afin que chacun puisse mettre les dons au service des autres et que cette Église ensemble, ce corps local à Longueuil, puisse arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est l'objectif glorieux de faire éclater la gloire du royaume de Dieu sur terre, parce que le monde devrait regarder son épouse sur terre présentement et avoir la meilleure représentation de Dieu sur terre. Paul est très sérieux avec ce qu'il discute ici. Ce n'est pas un plan B ou un accessoire pour les faibles, c'est le plan de Dieu, l'Église. Et, entre autres, la formation au cœur de cette Église-là. Et pour que la formation puisse avoir lieu au sein de l'Église locale, Dieu a accompli aussi quelque chose d'autre. Et Paul, juste avant de nous parler en détail de la marche chrétienne qui reflète la personne de Dieu, il nous dit que pour y arriver à cet objectif-là, Dieu fait un don spécial à l'Église. Et on peut lire au verset 11 ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, ou pour équiper les saints, dans une autre traduction, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici le mystère de Dieu dans lequel les anges plongent le regard et sont fascinés. Voici ce qui est au cœur du cœur de Dieu, son épouse, dans laquelle il a fait des dons de formateurs. On les appelle avec des noms ici, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Mais ce sont des formateurs parce que leur rôle est d'équiper les saints afin qu'eux puissent faire le service. Donc, Dieu donne des formateurs, mais il donne les formateurs à qui? Alors, ce matin, j'aimerais, juste avant de répondre à cette question-là, vous dire que l'Église locale est au cœur du plan de formation que Dieu a pour chacun de vous. Amen? Il n'y a pas de réaction ici. L'Église de Longueuil, cette gang-là, avec les formateurs que Dieu vous a donnés, Dieu a un plan de formation pour chacun de vous, pour que vous soyez équipés, pour être transformés et pour servir, afin que toute la rive sud puisse dire « Dieu ressemble à ceci ». L'enjeu, ce n'est pas moi. L'enjeu, ce n'est pas vous. L'enjeu, c'est Dieu. Dieu a inventé un système, il a mis en place un système pour que l'on reconnaisse l'image de son caractère à travers le micro qui tombe. Non, c'est pas ça. Ouais, tu m'aimes. J'ai pas cette technologie-là, Saint-Hyacinthe.
Est-ce que l'oreille est comme ça?
Petit.
parce que l'oreille est trop petite.
À chaque fois que je vais dans les magasins, ils n'ont jamais mon 16. Ah, on avait reçu une copie, mais vendue. Comme si j'étais le seul petit. Mais, donc Dieu, c'est son image, c'est sa personne, c'est lui qui est à l'honneur. Et c'est lui qu'on veut représenter. Donc, lorsque je parle de formation ici, c'est le moyen. C'est pas le but en soi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La gloire de Dieu, la personne de Dieu, la majesté de Dieu mérite d'être représentée par nous, corps de Christ sur terre, son épouse. Et c'est pourquoi il a donné à l'épouse l'outil qu'il faut pour qu'elle puisse être transformée. À qui Dieu a donné les formateurs? À qui? Eh bien, il a donné à l'Église. À l'Église. C'est par elle que Dieu a voulu que tous parviennent à la maturité. Il vous a donné des formateurs pour vous équiper. Tous. Chacun. Et si dans notre monde culturel d'aujourd'hui, formation égale école, dans la Bible, formation égale Église, c'est à l'Église que ça se passe, l'école. Et Calvin avait compris ces choses, comme on a vu. Et Dieu s'est servi d'une Église et d'un homme puissant qui avait une vision pour le faire. Et à chaque fois qu'une équipe professionnelle gagne une coupe dans leur domaine, dans leur discipline, le trophée des trophées, ils disent toujours quelque chose qui me frappe. C'était une affaire d'équipe. On l'avait, l'unité, là, dans l'équipe. C'est la même chose avec la formation dans le cadre de Dieu. Lorsqu'une église se met ensemble et qu'il forme une équipe avec les formateurs, il y a un plan de formation qui s'installe et la transformation a lieu. Les gens deviennent à la connaissance de la personne de Dieu, du Fils de Dieu, et ils sont transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu. Et Dieu est glorifié et Dieu reconnu pour qui il est. Mais ça passe par une église qui prend au sérieux son rôle de formation. C'est ce que Dieu veut. Dans le texte qu'on a lu, on l'a bien lu au verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Une telle connaissance que nos vies sont transformées. Parce que le mot « connaissance » dans le langage biblique ici n'a pas un sens de connaissance intellectuelle seulement. Le sens du mot « connaître » dans la Bible, c'est cette relation intime qui produit une transformation qui n'est pas statique, qui n'est pas un transfert de données ou d'informations, mais une connaissance qui change une vie, qui transforme, qui nous amène à une image, la stature parfaite de Christ. Trop souvent, l'éducation a aujourd'hui donné l'impression que la connaissance est tout autre. Un professionnel de l'éducation, dans son livre, dit qu'il y a des mythes en termes de formation, et je crois que l'Église en est atteinte. Celui qui dit ceci, l'apprentissage n'est qu'un transfert d'information, c'est ce qui est cru partout. Ou que enseigner, c'est dire. Enseigner, c'est pas dire. Enseigner, c'est être et dire. Jésus dit, venez avec moi, on va passer 3 ans ensemble. Ça, c'était l'enseignement de Jésus. Et vous, ici, en tant que disciple, pour être formé par un autre disciple, il va falloir qu'un disciple vous dise, viens avec moi. Quand j'étais jeune, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai regardé un chrétien qui avait de l'air bizarre à mon église. Je dis, lui, il a l'air spirituel. Je vais me tenir avec lui, voir. Samedi soir arrive, je l'appelle. Je dis, Michel, on va-tu au cinéma? Il dit, mais non, François. « Viens avec moi, on va aller au centre-ville évangéliser. »« Quoi? » Il m'amène au centre-ville, direct en face de la cathédrale. Il y avait des gens assis sur des bancs. On va vers eux, commence à prêcher l'Évangile. Ça a transformé ma vie. J'ai vu un disciple en train de faire, en train d'être, en train de voir son fardeau et pleurer pour ces gens qui étaient là en train de mourir sans Christ. Ça a bouleversé ma vie. Cet homme-là, m'a pris à part et il a commencé à me former. Il n'y avait rien d'écrit, rien d'officiel, pas de document. Pas de cours. Mais j'ai été formé par lui. J'ai été transformé par lui. C'est de cette formation-là que je vous parle ce matin, que j'aimerais qu'il change vos vies. Mais pour entrer là-dedans, il faut une décision. À cette époque-là, il a fallu que je prenne la décision de dire, je vais passer du temps avec Michel. Lorsque Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:2, il faut que tu puisses enseigner à d'autres, transmettre à d'autres ce que tu as entendu de moi, ce que je t'ai confié. Confie-le à des hommes fidèles, afin qu'eux aussi puissent se transmettre. Le mot « confier » ici est un mot particulier du monde financier, du monde bancaire. Le dépôt. Dépose un dépôt. Et c'est le sens d'un trésor qui était confié à l'époque, qui était tous les revenus d'une personne, qui était donné dans les mains d'un intendant, afin que cet intendant-là puisse le garder, le faire fructifier, mais qu'il soit vraiment préservé, tout au complet. Et Paul va chercher ce terme pour dire, « Toi, Paul, toi, Timothée, prends un homme et fais comme j'ai fait avec toi. Donne-lui, confie-lui le dépôt, l'Évangile. » Et Paul n'est pas en train de dire ici à Timothée, « Enseigne des cours simplement. » Et je crois au cours, je suis directeur des études. Mais il y a plus que le cours. La formation, c'est tout l'être. C'est la compétence, c'est l'habileté. Viens avec moi, on va aller visiter une personne à l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur pour faire ça. Un disciple peut montrer à un disciple comment aller faire une visite à l'hôpital. On ne sait pas quoi faire. Quelqu'un peut nous montrer. Viens, je vais te montrer comment on va aller encourager quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la tristesse. Viens, je vais te montrer comment on évangélise. Viens avec moi. Suis-moi. C'est des verbes que vous connaissez de la vie de Jésus, pas vrai? Suis-moi. Mais cette formation-là est encore 2008 au Québec, accessible et disponible. Trop souvent, on est structuré dans des programmes. On oublie que l'Évangile est relationnel. Et Dieu vous appelle une transformation. Et moi, ce que je vous dis ce matin, c'est choisissez un domaine à travers lequel Dieu vous a parlé. Juste un. Dernièrement, par un message, par une étude biblique, lors d'une église maison, lors d'un partage, lors de la lecture d'un livre, peu importe. Souvent, on les lit, on est saisi, on tourne la page, on continue. Non! Choisissez-en un domaine et trouvez-vous quelqu'un dans l'église qui sait pratiquer, vivre, être ou connaître cette chose-là et dire, j'aimerais passer un petit peu de temps avec toi. Je veux que cet élément-là change dans ma vie. Ça ne se passera pas dans votre salon toute seule. Ça va prendre le courage de prendre une décision. Choisis un domaine où tu veux être formé. Identifie-le. On a même des outils à Sembec, des feuilles qui donnent un cadre pour t'aider si tu n'as jamais... Et Yannick peut vous procurer ça. On a des guides d'apprentissage pratique qu'on appelle, des démarches de formation du cœur pour accompagner les étudiants. Dis-moi, je veux travailler tel aspect dans ma vie, je veux apprendre. Un peu comme les disciples disaient, enseigne-moi à prier. Viens avec moi. Viens faire ton culte personnel avec moi pendant un mois. Entre dans ma chambre. Je vais te montrer comment je rencontre Dieu. Ça, c'est de la formation. Ça peut te demander de te lever de bonne heure, mais ça peut changer ta vie. Ce n'est pas toujours dans les livres. Combien ici ont appris à faire un nœud de cravate en lisant les instructions dans un livre? Levez la main. Un? Internet, oui, lecture. C'est Internet. C'est pas pire. 2-3 personnes peut-être. Combien ont appris à faire un nœud de cravate parce que quelqu'un l'a comme montré comment faire? Hey, c'est ça, hein? C'est la formation. Quel exemple! Ça, c'est juste la compétence d'un nœud de cravate, qui la première fois est très impressionnant. Imaginez partager l'Évangile. Imaginez faire une visite. Imaginez encourager quelqu'un. Imaginez dire la bonne parole au bon moment. Imaginez enseigner. Dieu a donné des formateurs, des disciples qui forment des disciples et des formateurs de formateurs. Et si Dieu l'a donné à un niveau, il l'a donné à l'autre niveau aussi. celui de former même les formateurs à venir. Parce que si Dieu donne les formateurs à l'Église, à un moment donné, il faut qu'ils soient formés. Et le cycle continue comme ça. Et vous êtes appelés à reproduire vos propres pasteurs. Et c'est votre responsabilité à investir financièrement en temps et en formateurs qui passent du temps avec eux pour produire ces gens-là. Donc, non seulement chacun de vous ici a une décision à prendre ce matin de transformer quelque chose dans sa vie, mais ça ne se fera pas si vous revenez chez vous et vous ne prenez pas de décision. Mais le but de tout ça, François, c'est quoi le but? Dieu! Les gens ont besoin de rentrer ici et de dire, ça ressemble à ça, la personne de Dieu, son amour, sa patience, sa douceur, et je veux connaître un tel Dieu. Donc, l'enjeu n'est pas que toi, tu as progressé. L'enjeu, c'est la personne que tu représentes. Et 1 Pierre, chapitre 2, nous dit qu'on est appelé à manifester les vertus. Les vertus de qui? De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre dit, vous existez pour ça, gang. Oui, mais ça brasse, on souffle ici. Justement, vous allez manifester encore plus les vertus de celui qui vous a appelé. Mais tout cela était possible à cause que Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le dire ce matin. Si notre vie peut être changée, si on peut avoir une église, si on peut avoir une vie communautaire, si on peut être dans un processus de formation et si on peut manifester et être représentant de la gloire de Dieu, c'est à cause de la croix de Jésus-Christ. Il est l'auteur, l'initiateur et l'architecte de tout ça. Sans cette œuvre, tout ce qu'on parle ici ne serait qu'humain. Mais ce n'est pas le cas. C'est un plan divin pour représenter une personne divine. Je t'encourage à réfléchir. Dans quel domaine veux-tu grandir? Trop souvent, on est dans un mode très nord-américain où vous m'écoutez et vous oubliez. J'aime bien un chant de Casting Crown qui dit, « Seigneur, permets-moi qu'entre l'autel et la porte de sortie, je ne l'oublie pas. » Quelle image! Parce que ça représente ce qu'on est. Et ce matin, j'espère que vous allez saisir l'occasion de dire, il y a un disciple dans cette église-là qui peut me montrer cette chose-là et je veux passer du temps avec lui. Ça peut être dans votre petit groupe? C'est à ça que ça sert? Ça peut être en dehors de votre petit groupe. Mais si vous n'êtes pas intentionnel ce matin, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Sinon, on va être comme Jacques. Il me semble que dans Jacques, si tu veux montrer l'image du miroir ici, c'est de la personne qui se regarde dans le miroir. Et puis, là, il y a de la misère à se dessiner, puis il tient. Imagine s'il baisse le miroir pendant quelque temps. Qu'est-ce qui arrive? On oublie. Mais quand on regarde un miroir, d'habitude, vous allez être d'accord avec moi, c'est pour constater les dégâts. Amen? C'était pas fort. Yannick rit. Quand on regarde un miroir, c'est pour constater les dégâts. Et Jacques nous dit, fais pas comme quand tu regardes le miroir, puis t'oublies. Le but de mon épouse en regardant le miroir, c'est que lorsqu'elle sorte de la salle de bain, elle est différente du dégât en entrant. Mais pour elle, c'est un petit dégât. Ça dépend. Ce matin, vous pouvez regarder dans le miroir de ce que je vous dis. Comprendre que l'Église est au cœur de la formation que Dieu a pour chacun de vous. Comprendre que ce but-là est pour représenter la personne de Dieu. Sortir d'ici et continuer votre routine sans adresser les situations sérieuses ou non sérieuses, mais qui sont là dans vos vies et qui vous empêchent de refléter la personne de Christ pleinement. Vous savez, le mot « redevable » fait peur, mais c'est un mot-clé. Dès que je sais que quelqu'un m'accompagne avec moi pour me suivre et prier pour moi et me demander des nouvelles, combien c'est extraordinaire. Je peux dire à quelqu'un, lis ce livre-là. Oui. Je reviens 2 mois après, rien de fait. Lis ce livre-là, je t'appelle chaque mardi pour savoir où tu es rendu. Miraculeusement, il progresse dans sa lecture du livre. C'est comme ça que Dieu a fait l'Église. J'ai besoin de Bertrand, Bertrand a besoin de moi, et ainsi de suite. Et lorsqu'on est redevable sur des choses que l'on veut voir changer en nous, parce qu'on réalise que l'objectif n'est pas nous-mêmes, mais Dieu, c'est extraordinaire. Mais comme Dieu appelle cette Église aussi à former même les formateurs de formateurs, ceux qui vont équiper les pasteurs ici, eh bien, des fois, l'Église n'a pas tous les outils pour le faire. C'est là qu'arrive Sembec. Et on peut peut-être avancer un petit peu en avant ici jusqu'à temps qu'on arrive à, c'est parfait, la vision de l'association. Eh bien, Sembec fait partie d'une association, votre association, et on s'est donné le merveilleux objectif que d'ici 10 ans, on ait 100 églises au lieu de 75 quand on a commencé ça. Merci Seigneur, on est rendu à 80. Mais pour ces 100 églises-là, ça va prendre 100 ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il faut remplacer tous ceux qui s'en vont à la retraite. Il faut remplacer ceux que Dieu enlève par la maladie ou à la mort. Il faut remplacer et donner à ceux que l'Église grandit en maturité et a besoin de plus d'ouvriers. Et il faut envoyer les évangélistes implanteurs et les ouvriers pour les remplacer parce qu'ils vont aller implanter un autre. Ça, c'est une vision conquérante. Et on est en train d'y arriver. Et Sembec existe pour aider les 80 églises actuelles à former leurs ouvriers pour remplir le champ missionnaire et que partout au Québec, quiconque demande c'est qui Dieu, puisse rentrer dans une église et dire « c'est ça ». Amen? Sembec aide l'Église de Longueuil à faire son travail de former ses ouvriers en offrant toutes sortes de ressources dans les domaines. Et aujourd'hui, on remercie le Seigneur, on a des gars équipés autant au niveau professoral, au niveau coaching, au niveau ressources suivies. Tous les domaines sont là pour équiper l'Église. Et on veut atteindre cette vision-là pour notre association d'Église parce qu'on est un serviteur de notre famille d'Église et on est serviteur des Églises pour les aider. Si on peut avancer. Alors, priez pour cela, s'il vous plaît. C'est votre vision en passant. Parce que l'association, c'est qui? C'est vous? C'est votre quête. C'est votre champ missionnaire. Et j'aimerais pouvoir vous dire ce qui se passe un petit peu là-dedans. Alors, Sembec est différent des autres parce qu'il ne donne pas simplement la formation académique. Elle donne aussi le coaching et l'encadrement dans l'église locale à travers les coachs qui sont dans votre église pour les aider et les équiper à former vos gars et tous ceux que Dieu appelle ici à l'église pour devenir pasteurs et ouvriers pour le leadership au Québec et dans le monde. Et j'aimerais vous dire que c'est tout un privilège parce que nous, on est très petits, on est très humbles et on n'a pas grand-chose. Mais Dieu nous utilise pour avoir un impact en France et en Belgique présentement à travers 20 associations d'églises en France. Parce qu'ils ont réalisé qu'eux autres aussi, l'Église est au cœur de la formation et ils veulent être équipés, outillés pour le faire. Et on envoie un de nos ouvriers là-bas pour les aider, les équiper là-dedans. Et c'est en train de vraiment créer tout un réseau fantastique. Le Japon nous a demandé de l'aide. Parce que le séminaire a réalisé qu'il y avait besoin d'aide. Et ils ont transformé leur philosophie et ils ont utilisé leur réseau d'églises pour commencer à former leurs ouvriers. Et on n'a pas pu aider beaucoup là-dedans parce que c'est toute une question de temps et d'investissement, mais un autre réseau qui est comme nous est allé les aider. Et notre missionnaire, Pierre Jutras, qui dit « Hey, en Pologne, on n'y arrivera pas, ça va prendre la formation dans l'église locale. » Il est en train de le voir, là, si peu de tout à faire. Mais Dieu a donné les gars dans l'Église et les missionnaires dans l'Église, hommes, femmes. Et les formateurs sont ici. Il faut mettre ça en branle, organiser cela. Et Sembec est là pour vous aider à faire ça. Et on le fait au Québec, un peu partout aussi. Connaissance, caractère, compétence. Dans une relation, Paul, Timothée, pareil comme dans les Écritures. Et c'est le parce que si je passe à 50 ans avec un pompier, tous les jours, à quoi je devrais ressembler après 50 ans? Il y a des grosses chances que je ressemble à un pompier. Alors, on croit à Sembec que c'est des pasteurs qui forment des pasteurs. Parce que si on passe du temps avec un pasteur, on va apprendre à devenir un pasteur. Et c'est dans l'Église que ça se fait, parce que c'est à l'Église que Dieu a donné les pasteurs. Eh bien, on a développé, il y a quelques années, par la grâce de Dieu, un système de cohorte où on met les étudiants ensemble pour une synergie afin qu'ils puissent pendant 6 ans faire leur cours au niveau académique ensemble et développer des liens d'amitié. Et ils vont être collègues ensemble dans cette province-là, aux missionnaires à l'étranger. Mais s'ils restent dans la province, ils vont être ensemble, ils vont être des collègues, ils vont s'être connus dès les bancs d'école. Et On veut les équiper, les aider et vous aider dans ce sens-là. Et Dieu s'est servi de ça. Et au niveau des cohortes cette année, j'aimerais vous dire où on est rendu un peu à ce niveau-là. On peut passer à la prochaine. 75 % de nos pasteurs du Québec ont été formés par Sembec dans le passé. Plus de 82 % des pasteurs qui ont été formés par Sembec sont toujours dans le ministère aujourd'hui à l'heure qu'on se parle. C'est énorme. C'est énorme. Et les cohortes au Québec présentement, où on est rendu, si tu continues d'utiliser, on a débarré une à Montréal en 2004, je crois. Je le vois moins bien d'ici. Gatineau, ensuite, la région de Gatineau, la région de Sherbrooke, toute la rive nord de Montréal. Granby, notre tout dernier bébé. Et là, moi, je me suis dit, il manque quelque chose sur ce tableau-là. La rive sud! Une cohorte sur la rive sud. Ça manque, pas vrai? De Saint-Constant jusqu'à Sorel et jusqu'aux limites de Belle-Oeil, et etc. Une belle cohorte. Comment? Jusqu'à Saint-Hyacinthe. Mais nous, on peut les envoyer à Granby. C'est quasiment plus proche. Il y a Trois-Rivières présentement qui est en train de débuter peut-être une cohorte pour l'année prochaine. C'est en tableau de travail pour toute la région, Rive-Sud, Rive-Nord, autour de Trois-Rivières. Mais pourquoi pas la Rive-Sud? Prions pour ça. Que Dieu suscite une cohorte, des hommes qui vont se tenir ensemble, qui vont travailler, qui vont œuvrer pour l'œuvre de Christ ici. On continue. Alors, de toutes ces cohortes-là, on peut y aller rapidement ici, juste pour dire que vous avez les statistiques des gens. Et ce n'est pas tous des gens qui ont 20 ans et qui n'ont rien à faire, hein? Des personnes retraitées, des épouses, toutes sortes de personnes que Dieu envoie, des gens sur le marché du travail. Et Sembec a un programme de bourse pour essayer d'aider des gens afin qu'ils puissent travailler un moins grand nombre d'heures pour pouvoir étudier, être formés pour le ministère. Et on vous encourage à l'arrière, les enveloppes sont là, soutenez Sembec pour qu'on ait le plus grand nombre de bourses à donner pour aider le plus grand nombre d'églises à faire leur travail dans la formation, parce qu'ils vont avoir des gars qui vont pouvoir travailler juste, mettons, 25 ou 30 heures et étudier et se préparer pour le ministère à long terme. On aimerait ça que Dieu nous en donne, qu'ils font plus vite aussi, qu'ils étudient beaucoup, beaucoup vite, vite, et aller chercher des études supérieures parce qu'on veut former nos futurs professeurs, les gens qui vont enseigner nos pasteurs de demain. Et on a besoin d'églises qui les donnent. Et on commence en 2010, prier pour ça, une cohorte d'hommes juste au niveau maîtrise qui vont rouler à un rythme plus accéléré pour qu'ils puissent aller chercher des études supérieures et pouvoir servir Sembec dans la formation et dans l'enseignement des formateurs de formateurs. 2010, moi je rêve. Et je suis arrivé à Sembec, entre autres, pour essayer d'atteindre cet objectif-là, pour que notre champ missionnaire puisse devenir autonome par rapport à tout notre cycle de formation à l'intérieur du champ missionnaire. Et ça va bien en passant. Et c'est vraiment bien parti. Et si Dieu t'appelle au ministère ce matin, peut-être tu es ici, peut-être tu ne sais pas encore, mais peut-être c'est ce matin, parce qu'il y a des besoins, hein? Sans église, sans ouvriers. Ils sont ici. Il y en a à Longueuil. C'est pas possible que Dieu n'ait pas donné à Longueuil. Il y a un verset dans la Bible qui dit, hein, de Nazareth, de Bethléem, de Longueuil. Et peut-être Dieu touche ton cœur depuis quelque temps, je ne sais pas. Mais viens me voir à l'arrière, va voir tes pasteurs, ils sont là pour ça. Les anciens de l'Église, afin que tu puisses dire, je pense que Dieu a quelque chose. Et ils vont encadrer ton processus de formation pour l'appel que Dieu a pour toi. Et j'espère que Dieu va les donner d'ici. Vous êtes une ville en région. Vous avez des étudiants, peut-être même universitaires. On a besoin de vous pour joindre les rangs. Parce que l'image de Dieu a besoin d'être représentée. Et si... On peut, la multiplication est importante. 10 % de nos étudiants sont impliqués dans une implantation d'église au moment même de leur formation. Je pense à Jacob Mathieu, qui est à Saint-Jérôme, qui ont commencé l'église en septembre 2007. Ils sont entre 80 et 100 dimanche matin. Amen. Il est en train de terminer sa formation comme implanteur avec Sembec. Entre 10 et 15 % des cohortistes servent déjà dans l'équipe pastorale de leur église à temps plein. Toutes les cohortistes sont impliqués, bien sûr, parce que c'est fondamental et on ne peut pas que faire des cours à Sembec parce qu'on aide l'église à former leurs ouvriers dans leur contexte en train d'être vivants et impliqués au sein de leur église. Je termine ce matin avec ce rappel pour vous. Choisis une chose. Juste une. Que Dieu mise ton cœur peut-être dans les derniers mois. Et si tu t'en trouves pas, demande aux frères assis à côté de toi de t'aider. Il va peut-être t'aider à en trouver. Parce qu'on voit mieux les autres que nous-mêmes, pas vrai? Choisis une chose. Choisis une personne de cette église. Si vous voulez travailler un aspect de votre vie. La formation, elle est intentionnelle. Et Dieu a donné les disciples dans cette église pour former d'autres disciples, pour passer du temps avec eux et que les choses soient changées. Et si Dieu t'appelle au ministère, manifeste-le aussi. Tu n'es pas sûr, va les voir. Ils vont t'aider là-dedans. Tu veux devenir un ancien à l'église ici, un diacre, manifeste-le. Si ce n'est pas pour toi, ils vont te le dire. Mais si c'est pour toi, ils vont t'aider. Prions ensemble. Seigneur, on ne veut pas être comme ce que Jacques décrit dans sa lettre. Ceux qui regardent. Et qui oublient. Ceux qui ont vu les dégâts, mais qui se contentent de peu. Parce qu'ils ont oublié que l'objectif n'est pas eux-mêmes. Mais toi, tu es digne comme Créateur et Sauveur d'être représenté dignement par ton épouse ici sur terre, en attendant ton retour. Seigneur grand Dieu, mets à cœur à mes frères et sœurs ici un aspect dans lequel ils voudraient être changés, qu'ils utilisent un autre disciple autour d'eux dans leur petit groupe, ou qu'ils utilisent quiconque dans l'Église pour dire « Montre-moi, enseigne-moi dans ce domaine-là. » Comment fais-tu? Seigneur, permets-leur d'être intentionnel et de prendre la décision ce matin. Et si certains sont appelés à aller plus loin de l'église de Longueuil, appelle-les, Seigneur. Suscite-les des églises autour aussi et donne-nous une cohorte sur la rive sud, Seigneur. Donne-nous une cohorte d'hommes qui vont répondre à cette vision de l'association. Suscite-les, Seigneur. Et financièrement, Seigneur, permet qu'on puisse soutenir tous ensemble le Québec, cette œuvre de formation pour rééquiper ceux qui sont appelés à former les formateurs. Nous t'en prions, Seigneur Jésus. Amen.